vais partager un texte qui, ou un message ce matin. Il est basé sur un texte que j'ai lu, une étude grandement inspirée de quelqu'un que vous devez sûrement connaître, ou tout du moins vous avez entendu parler, qui s'appelle Émile Nicole. C'est le fils de Jules Marcel. D'accord. Vous connaissez tous, bien sûr. Alors, excusez-moi, j'enlève mes lunettes. On va essayer de parler ce matin des petites phrases de Jésus, bien affûtées, bien taillées, comme un rasoir neuf. Quand on met une lame neuve, ça va tout seul. Petites phrases, j'oserais dans le jargon du 21e siècle, petites phrases qui tuent. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Dimanche dernier, notre frère a partagé sur les dons la parabole des talents, donc dans Matthieu 25, et puis le verset 29 nous dit « En effet, on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. » Matthieu 13, 11 et 12, Jésus leur répondit « Parce qu'il vous a été donné à vous, de connaître les mystères du royaume des cieux, mais qu'à eux, cela n'a pas été donné. En effet, on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera, encore une fois, même ce qu'il a. » Alors que Jésus parle de grâce, de pardon, qu'il dit que son joug est facile, qu'il mange et qu'il boit avec ses disciples en compagnie de pharisiens, que les pharisiens, trouvent compromettant. Voici qu'il nous donne tout net, comme je dis, comme un rasoir, le conseil de nous couper la main ou de nous arracher l'œil pour échapper à l'enfer. Revenons à cette parabole des talents. Enrichir le riche, c'est-à-dire donner déjà à celui qui a. Alors que tout le message consiste à dire que Dieu donne à celui qui n'a pas jusqu'à présent, que c'est aux pauvres en esprit que Dieu donne en partage le royaume des cieux, qu'il n'est pas venu appeler des justes et des pécheurs, alors que durant tout son ministère, il n'a cessé de s'approcher de ceux qui étaient dans le péché, dans la faiblesse. Voilà qu'il paraît dire maintenant tout le contraire. Il n'est plus question de combler celui qui en a besoin, mais de combler celui qui est déjà riche et de priver le plus pauvre du peu qu'il a pour donner à celui qui a déjà beaucoup. Ça vous a jamais interpellé, toutes ces choses ? Ça s'appelle des paradoxes. Alors, un petit coup de Wikipédia, paradoxe, vous savez, pour ceux qui connaissent. Un paradoxe, comme JL, je ne suis pas champion du grec, mais d'après l'étymologie grecque, contraire à l'opinion commune, de para contre et doxa opinion, désigne une idée ou une proposition à première vue surprenante ou choquante, c'est-à-dire allant contre le sens commun. Le paradoxe qui consiste à prendre quelque chose à quelqu'un qui n'a rien n'est plus ici une caractéristique de la grâce, il nous semble, qui fait que le pauvre devient riche quand il reçoit la grâce, et c'est le riche qui se retrouve pauvre. Au contraire, ici, le riche devient plus riche et le pauvre devient plus pauvre. Il nous faut donc nous approcher de ces textes avec toute la confiance de la foi pour admettre que c'est bien le même personnage, Jésus, qui nous dit les deux choses et pour recevoir avec autant de confiance la parole qui nous dit « Heureux les pauvres car le royaume des cieux est à eux » et celle qui nous dit « À celui qui n'a rien, on ôtera même ce qu'il a. » Paradoxe. Voilà un petit peu mon introduction. Deuxième titre, attention à notre mauvais usage de l'Écriture. Dieu a prévu dans sa parole de nous donner, de donner aux croyants toutes les instructions nécessaires à la vie, à notre foi, quel que soit le temps, l'époque, la culture, le caractère ou la situation de chacun. Vous êtes tous d'accord avec moi pour dire que c'est un livre omniscient, omnipotent, et puis qu'il était, qu'il sera toujours valable. Il n'y a pas l'ombre d'une erreur dans ces textes. On est tous d'accord avec cela. Quelle extraordinaire richesse que celle de cette parole qui peut correspondre à tellement de situations que nous connaissons, particulièrement intimes, et à la fois à toute personne. Le risque de texte ou d'une telle richesse que l'on trouve, c'est qu'elle peut être mal interprétée, mal perçue. Je fais une toute petite parenthèse, il y a un verset qui me revient à la tête. Toi et toute ta famille seraient sauvés. Je ferme la parenthèse. Ça vous pose des questions, ça m'en a posé aussi. Si je retiens dans la Bible seulement ce qui me convient, ce qui correspond à mes aspirations, à ma sensibilité, si je cherche uniquement ce que j'aime, ce que j'ai envie d'entendre, ce qui convient à l'ère du temps, d'une manière générale, est-ce que cette parole va m'instruire ? Point d'interrogation. Un commentateur a écrit « Les paroles de Dieu qui te surprennent, les paroles de Dieu qui te dérangent, sont sûrement celles dont tu as le plus besoin d'entendre. Si tu ne veux pas te laisser aller simplement au gré des pensées du jour après jour. » Il y a un texte intéressant pour mettre en écho ces paradoxes de la parole de Dieu qui nous ramène à la tentation de Jésus. La tentation de Jésus, dans Matthieu 4, nous apprend que le diable s'est fort bien trouvé dans l'Écriture elle-même des paroles pour nous tenter, pour nous détourner de la mission confiée par le Seigneur. Matthieu 4. On va... Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit « Il est écrit. » C'est Jésus qui répond « Il est écrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges, à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Le diable qui prend un verset et qu'il présente à Jésus. Jésus lui dit « Il est aussi écrit, tu ne tenteras pas point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes de la terre et lui dit, et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses et tu te prosterneras si tu te prosternes et m'adores. » Et Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu comme toi-même. » Je trouve que ce texte était une belle expression de ce que l'on pouvait faire de la parole de Dieu dans la bouche de Jésus et dans la bouche du diable. L'usage que Satan peut faire de la Bible, pour autant, ne disqualifie pas ce livre qui est parole de Dieu. Mais au contraire, elle nous encourage à en faire un usage un peu plus large, plus rigoureux, plus attentif, avec le souci constant de prêter l'oreille à tout ce que Dieu dit. Il y a des versets, des fois, bon, on saute largement, à pieds joints, on court les grandes diagonales. Il est écrit, encore une fois, je répète, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux », Matthieu 5, 3. Il est aussi écrit, « À celui qui n'a rien, on notera ce qu'il a », Luc 19, 26. Voilà un petit peu pour parler des paradoxes que l'on peut trouver, de versets qui nous gênent, qui nous dérangent, mais qui sont quand même à ne pas passer sous silence. Le troisième tête de chapitre que l'on va regarder maintenant, c'est la grâce de Dieu. Heureusement, la grâce de Dieu est là, n'est-ce pas? Il n'est pas question, bien sûr, ici, de remettre en cause le message de grâce qui parcourt toute l'Écriture, depuis le premier livre, la Genèse, jusqu'à la fin, l'Apocalypse, et dont le cœur même est constitué, on en a parlé ce matin, et on le répète dimanche après dimanche, par l'enseignement, la vie, la mort, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Acte 4, 12 nous dit « Il n'y a de salut en aucun autre ». Éphésiens 2, 8 « C'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu ». Ouf ! C'est le don de Dieu. Mystère extraordinaire, mais il en est ainsi. Par cette grâce, c'est à un homme, c'est à une femme qui ne possède rien que Dieu accorde le salut. Un homme, une femme qui, devant lui, ne peut faire valoir aucun antécédent, aucun mérite personnel, aucune circonstance, aucun effort ni souffrance pour bien faire, mais simplement qui se reconnaît, humblement perdu, incapable de rien faire pour se sauver, place toute sa confiance en Jésus-Christ, le seul sauveur. Le message de l'Évangile, il est là, central, il n'y a rien à rajouter, rien à enlever. Tel est le glorieux Évangile que je, vous, tu, a l'honneur de pouvoir proclamer. Il ne saurait être question de le diminuer, de le relativiser en quoi que ce soit. Ça aussi, c'est quelque chose que nous, on doit se rappeler, on diminue facilement les... On adoucit facilement les messages de l'Évangile parce que c'est notre cœur qui a un peu du mal, des fois, à annoncer la parole telle qu'elle est à des amis autour de nous. Mais il faut se méfier à force peut-être d'édulcorer ou des choses comme ça, est-ce qu'on annonce vraiment le bon Évangile? Souvenons-nous de la parole très forte que Paul adressait aux Galates, tenter d'apporter quelques corrections ou quelques ajouts ou quelques soustraits à cet Évangile de la grâce seule. Galates 1,8 dit « Quand nous-mêmes, ou quand un ange du ciel vous annoncerait un évangile différent de celui qui vous a été annoncé, qu'il soit anathème. » Nous avons une responsabilité dans la manière d'annoncer notre évangile. La grâce de Dieu, centrale, rien n'est besoin de rajouter, et nous avons une responsabilité en face de cette annonce. Alors, autre paragraphe, on va essayer de regarder un petit peu notre lecture, parfois un peu incohérente ou quelquefois non intelligente. Je me place à ce niveau. Il n'est pas question de remettre en cause le message de la grâce, mais de réfléchir à l'usage que nous en faisons dans notre vie personnelle, dans la vie de nos communautés. Je vous rappelle que c'est un don de Dieu. Je reviens à la parabole des talents. Celui qui n'a rien dans la parabole des talents est quelqu'un qui n'a rien fait. C'est pas qu'il a rien, c'est qu'il a rien fait. Ayant reçu de son maître une somme importante à faire valoir, il n'a rien trouvé de mieux à faire que de cacher l'argent de son maître jusqu'à son retour. celui qui n'a rien n'est pas quelqu'un qui n'a rien reçu, mais quelqu'un qui, ayant reçu au même titre que les autres, n'a rien fait. Celui qui se trouve soumis à cette loi impitoyable, qui veut que l'on donne, c'est lui, pardon, qui se trouve soumis à cette loi impitoyable, que l'on veut que l'on donne davantage à celui qui possède, et que l'on ôte à celui qui n'a rien fait. Au premier abord, ce personnage n'apparaît guère comme quelqu'un qui abuserait de la grâce. On lui a donné de l'argent, il le prend, il s'en va. Peut-être, prétextant que tout est grâce, ma foi, il est parti, il a vécu en toute insouciance, se laissant aller quant à la parole vis-à-vis de ce don, de cette grâce donnée, offerte. Pourtant, qu'est-ce qu'il dit ? Il ne parle pas de la grâce de Dieu reçue, mais de sa dureté. Il dit « Je savais que tu es un maître dur et sévère », il répond, pour se justifier. Il ne parle pas d'insouciance, mais il parle de la peur du maître. Mais lorsqu'on regarde un petit peu plus près, ce serviteur paresseux, on peut le qualifier, ne semble pas vraiment conséquent avec lui-même. S'il avait vraiment une telle image de son maître, s'il avait vraiment eu peur de son maître, s'il avait vraiment peur de son patron qui voulait absolument le faire travailler, il en aurait tiré les conséquences. Son maître lui fait bien remarquer « Je te jugerai sur tes paroles, mauvais serviteur. Tu savais, tu prétendais que je suis un homme sévère, que je prends ce que je n'ai pas déposé et je moissonne ce que je n'ai pas semé. Pourquoi n'as-tu simplement pas placé l'argent dans une banque ?» nous dit dans Luc 19, le mot « banque » est employé dans nos versions. Pourquoi simplement l'argent que tu as reçu, tu ne l'as pas placé dans une banque ? Au moins, tu aurais été sûr. Banque entre guillemets. Hein. Dans notre domaine spirituel, on pourrait dire que ce mauvais serviteur est un homme qui abuse de cette grâce donnée. Durant toute la période de l'absence du maître, il a en quelque sorte vécu avec la grâce dans sa poche. Voilà, il l'a mis là. Il a donné, le maître a donné. Oh, je dis, il me fait tellement peur que en fait, il l'a mis dans sa poche parce qu'il l'a reçu comme les autres. Durant toute la période de l'absence du maître, en quelque sorte, il a vécu de la grâce parce qu'elle était là, mais la grâce dans la poche. Certes, il n'a pas touché à la somme qu'on lui avait confiée. Elle était toujours là, à sa disposition. Il aurait pu la faire valoir. C'est un homme chez qui le don donné, la grâce donnée, est restée stérile, improductive. L'image même qu'il se fait de son maître montre bien qu'il n'admet pas cette relation que le Dieu souhaite avoir avec sa créature. Ce type de relation, entre guillemets, commerciale, pardonnez-moi, je suis commercial, où le maître donne quelque chose au départ et lui demande de faire fructifier. Cette relation-là où Dieu attend que l'homme quelque chose, où il faut produire pour ne pas être disqualifié, elle ne peut pas être pour lui. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne peut être que le fait d'un Dieu dur et sévère. Un Dieu qui se contente de donner, de promettre, un un Dieu qui systématiquement renverserait toujours les situations les plus délicates en ma faveur, un Dieu qui transformerait l'existence, je dirais c'est un Dieu magique, un Dieu loto, où l'on gagnerait toujours. Voilà peut-être ce qui pourrait satisfaire notre serviteur avec sa grâce dans sa poche. Mais que ce Dieu demande un service, qu'il donne une somme d'argent, non en disant « va t'amuser, va faire ce que tu veux », mais réclamant un profit, le voilà tout de suite dur, sévère, profiteur, exploiteur. Qu'est-ce que c'est que ce Dieu ? Il me demande, il me donne ça, il faut encore que j'avance. Quatrième et dernier paragraphe, faire bon usage de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est autre chose. C'est pas l'amnistie des contraventions, j'aime bien ce texte, ou un truc pour se soulager la conscience. C'est là, dans ma poche, ou dans mes poches. La grâce de Dieu qui est proclamée dans l'Écriture, celle qui découle ou qui coule comme le sang des mains et des pieds du Christ, de notre Sauveur sur cette croix. C'est quelque chose de plus profond, de plus important qu'un simple don, qu'une simple qualification. Quelque chose de plus fondamental. C'est le rétablissement de relations vraies entre le Dieu créateur et l'homme. C'est cette relation rompue depuis l'origine du monde, depuis la chute. Dieu nous fait le don, nous donne par grâce cette possibilité de renouer cette relation extraordinaire qu'on peut avoir, la garder dans sa poche, ne pas la faire fructifier, c'est refuser cette relation, ce moyen que Dieu nous donne. Vous voyez comment on voit cette parabole des talents d'une manière éclairée comme ceci, tout à fait intéressante. La grâce de Dieu qui est proclamée dans l'Écriture, elle est là, potentielle, donnée par l'Éternel, pour recréer cette relation coupée. Et pour faire une relation, on le dit souvent, si vous allez voir quelqu'un une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, dix fois, vingt fois, et que c'est toujours monocorde, c'est pas du dialogue, c'est du... D'accord ? Tout va toujours dans le même sens. C'est pas une relation, c'est pas ce que notre Dieu veut. C'est le rétablissement de relations vraies entre le Dieu créateur et l'homme. C'est un acte de miséricorde si grand qu'il suscite une reconnaissance éternelle, une reconnaissance telle qu'aucun service, aucun sacrifice ne devrait apparaître trop grand ou trop difficile. La grâce de Dieu est telle qu'elle rend possible une vraie relation de service entre nous et Dieu. Je pense que dans cette phrase-là, ça nous renvoie à toutes nos activités, toutes nos actions, tout ce que l'on fait. C'est simplement en réponse à la grâce que Dieu nous a faite, que nous avons reçue. Il n'y a pas d'autre explication. Ce n'est pas pour satisfaire un besoin ou un ego quelconque, personnel. Le moteur de nos actions, de mon action dans l'Église, c'est l'amour, la grâce de Dieu pour moi. La grâce de Dieu est telle qu'elle produit des résultats tangibles. Si je la sors de ma poche, elle ne reste pas stérile. Sinon, vous me direz, mais pourquoi c'est pas automatique ? Parce que si c'est pas automatique, eh ben nous ne serions pas des hommes faits à l'image de Dieu, nous serions des automates, n'est-ce pas ? Dieu s'est penché sur nous, nous a donné un cadeau merveilleux, il nous a offert sa grâce, il nous a apporté la vie éternelle, et il veut rétablir cette relation avec nous. Nous avons cette responsabilité de faire fructifier ce talent, cette grâce, simplement en répondant par grâce, Seigneur, je suis à ta disposition, peu importe, je suis à ton écoute. Reprenons cette question. Qu'est-ce que je fais de la grâce de Dieu? Est-ce qu'elle est pour moi un oreiller sur lequel je m'endors avec quiétude tous les soirs? C'est un moment extraordinaire, le plus beau moment de la journée, n'est-ce pas? Hein, quand on pose sa tête sur l'oreiller, là, qu'il est bien frais, bien doux, après une journée de fatigue, on s'endort dans la paix du Seigneur. Ou est-ce que c'est un puissant stimulant pour ma vie dans l'Église, pour ma vie d'enfant de Dieu? Le risque existe que nos vies, au lieu d'être des lieux où la grâce est exaltée, deviennent des lieux où la grâce est, pardonnez-moi le mot, galvaudée. Qu'on en parle, on en discute, on en cause, mais elle ne produit pas grand-chose dans ma vie. Alors, quels moyens, pour terminer, on a pour y faire face? D'abord, ces petites phrases de Jésus, choquantes, intentionnellement, sont là pour nous bousculer. Peut-être fonctionnent-elles comme un sorte de signal d'alarme pour nous. Alarme avertissant généralement d'un danger. Deuxième ressource. Écoutez toutes les paroles, tous les passages de l'Écriture, tous, pas ceux, naturellement, on repasse, on a tous des passages extraordinaires qui nous encouragent, qui, on n'est pas dans les psaumes, hein, mais ceux où on est un peu titillé, plouf. Écoutez tous les passages de l'Écriture du Nouveau Testament en particulier, où la relation entre Dieu et nous est envisagée sous l'angle du service. C'est là un grand plan d'enseignement biblique. Si nous avons de la peine ainsi à rétablir ou à percevoir cette relation avec Dieu, si ce Dieu nous apparaît dur, sévère, alors demandons-lui de poursuivre en nous l'œuvre de sa grâce, afin que nous l'aimions assez pour accepter avec joie et reconnaissance cette relation qu'il attend, qu'il veut avec nous, puisqu'il a fait tellement. Troisième ressource, avant de parler de ce texte que j'ai lu, laissons-nous pénétrer par la grâce de Dieu. En particulier, pour nous, l'image de cette grâce, c'est bien sûr l'œuvre de notre Sauveur. Quelqu'un qui abuse de la grâce n'est pas quelqu'un qui la voit trop grande ou qui en mange trop. C'est quelqu'un qui la voit trop petite. Quelqu'un qui abuse de la grâce, c'est quelqu'un qui voit la grâce de Dieu trop petite. Un commentateur écrit : « Ce serait une grâce bien méprisable que celle qui ne produirait que des assistés irresponsables et égoïstes, généreux de ce qui ne coûte rien, avare de tout ce qui me coûte. Dieu se fait une autre idée de moi et sa grâce consiste précisément à réaliser cette idée en moi et avec moi. » Alors, dernier petit paragraphe, c'est bon, je suis dans le timing. Une dernière réflexion qui nous concerne, tout un chacun, petits, grands, frères et sœurs, égaux devant le Seigneur. Si je constate des déficiences dans la vie de mes frères et sœurs autour de moi, dans la vie de la communauté ou ailleurs, commençons par nous regarder nous-mêmes. Il est certain que notre monde se fait une mauvaise idée de la grâce de Dieu. L'Église est là pour que le monde se fasse une belle idée de la grâce de Dieu. Nous sommes là, frères et sœurs, pour témoigner de l'amour du Christ autour de nous et que, par un mystère extraordinaire, cette lumière qu'il a placée en nous, cette lumière qu'il nous demande d'être les uns et les autres, son Église, afin que le monde voit l'amour du Christ pour les hommes et les femmes. De même, il ne sert à rien de vouloir améliorer les fonctionnements, les pratiques de tel frère ou telle sœur ou tel membre de ma famille si je ne commence pas par donner l'exemple. On le sait tous. Le seul moyen de changer, c'est Dieu qui peut le faire changer. C'est pas les conseils de Pierre, Paul, Jean, Louis ou un tel ou une telle. C'est dans cette relation rétablie que nous obtenons le changement dans nos vies. Si on garde cette grâce dans la poche, la relation est éteinte et Dieu ne peut pas nous changer. Sa parole ne peut pas travailler en nous. Il faut se mettre en position d'écoute. Il y a des choses importantes que je comprends si j'arrive si mal à faire passer. N'est-ce pas qu'elles sont peut-être pas bien claires dans ma vie? J'arrive pas bien à expliquer des choses, le message, c'est pas simple. Mais si le message, celui d'en face, il le voit clairement, il y a peu d'explications à donner. Que Dieu nous aide à expérimenter dans notre vie cette abondance de grâce, on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Amen. François, je vous prie.